marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radio vous permet de vivre ces instants impressionnants, énormes, historiques.
1800 et l'histoire de la Révolution française.
Premièrement, Michelet, c'est lui qui a écrit le premier « La France est une personne ». Deuxièmement, l'homme qui a été capable à la fois de révéler Jeanne d'Arc et de donner sa signification à la Révolution française, ça n'est pas rien. Et dernier point absolument capital, à partir du moment où on a la solidarité avec un élément populaire exprimé populairement, plus l'idée de quelque chose d'épique que la France a apporté au monde, on est dans ce que j'ai appelé jadis le bloc Michelet.
Malraux admirait le croisement que Michelet savait opérer entre l'imaginaire et l'histoire. Il parlait de Michelet comme un bloc. Michelet parlait, lui, de l'histoire comme d'un arbre aux multiples branches et rameaux sur le tronc duquel l'historien travaillait comme un pic. Le pic est cet oiseau qui, frappant sur le tronc, entend comment il résonne. Michelet, qui a sa manière propre de faire de l'histoire naturelle, dit que l'historien, comme le pic, guette ce qui est à naître. C'est ainsi qu'il a redécouvert dans un creux de l'arbre le personnage essentiel que fut Jeanne d'Arc. Elle a été l'objet du tome 5 de son Histoire de France, paru en 1841. Puis, soudain, le pic a laissé à leur silence les siècles qui suivent. Il n'y reviendra que plus tard. Et d'un trait, il a bondi beaucoup plus haut, jusqu'à la Révolution française. Le premier volume de son Histoire de la Révolution paraît en 1847, comme s'il pressentait le printemps des peuples à venir en 1848. L'historien n'est pas seulement un pic patient, c'est aussi un annoncier. Michelet avait dit comment Jeanne avait incarné la France. Maintenant, il annonce comment la Révolution française, cet événement aux dimensions du monde, permet le dépassement du christianisme. Le pic perché sur l'arbre est aussi l'évangéliste qui fait entendre la bonne nouvelle des temps qui commencent.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Paul Petitier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui a dirigé une équipe qui publie donc une édition critique en deux volumes dans la bibliothèque de la Pléiade de l'histoire de la Révolution française. Vous étiez combien dans cette équipe ?
Nous étions 12, si je ne me trompe.
12 apôtres.
Voilà.
Je reprends le vocabulaire de votre maître Paul Vialanet qui parlait de Michelet comme d'un évangéliste de la Révolution française. D'ailleurs, c'est avec Paul Vialanet que vous avez fait une édition populaire de l'Histoire de France aux éditions des Équateurs avant d'en venir à l'édition savante de la Révolution dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc, on en est en 1844 au tome 6.
Oui, on en est à la fin de l'histoire de Louis XI, à la mort de Louis XI.
Et c'est la mise en texte d'une parole, une parole poétique, et puis de la parole de ses cours, cette histoire de France.
Cette histoire de France, oui, est la mise en effectivement, est l'élaboration d'une parole au Collège de France, mais ça va être renforcé par l'histoire de la Révolution, qui commence aussi comme un cours au Collège de France, même comme plusieurs cours au Collège de France, et qui va donc être transsubstancié en livre dans la foulée.
C'est vous qui avez dit transsubstancié, je n'y suis pour rien. Alors, comment la rupture va-t-elle se faire entre l'histoire de France, que dans un premier temps il avait pensé continuer, et l'irruption de la nécessité de parler de la Révolution française. Alors voilà le récit à la façon de Pierre Nora, qui mêle peut-être un peu l'imaginaire et l'histoire, mais c'est tellement plus beau. Il raconte comment Michelet, qui fréquentait les cathédrales, Rouen comme Reims, a découvert un jour, derrière le décor visible de Reims, son envers.
Un jour passant à Reims, je vis en grand détail la magnifique cathédrale, la splendide église du Sacre. La corniche intérieure où l'on peut circuler dans l'église de 80 pieds de hauteur la fait voir ravissante, de richesse toute fleurie, d'un alléluia permanent. Et puis tout d'un coup, il monte dans le petit clocher, et là, un spectacle étrange m'étonna fort. La ronde tour avait une guirlande de suppliciés. Tel a la corde au cou, tel a perdu l'oreille. Les mutilés y sont plus tristes que les morts. Comme ils ont raison. Quel effrayant contraste. Quoi, l'église des fêtes et des rois, cette mariée, pour collier de noces, avait ce lugubre ornement. Ce pilori du peuple est placé au-dessus de l'autel. Mais ces pleurs n'ont-ils pu, à travers les voûtes, tomber sur la tête des rois? Je ne comprendrai donc rien au siècle monarchique si d'abord, avant tout, je n'établis en moi l'âme et la foi du peuple. Je me dis cela et j'écrivis la Révolution.
L'âme et la foi du peuple, il est toujours de ce côté-là, Michelet.
Michelet est lui-même un enfant du peuple qui a eu une enfance très pauvre dans les premières années du XIXe siècle. Et qui a peut-être un peu oublié ses origines populaires au début de la monarchie de Juillet, quand il a fait une carrière fulgurante, qu'il est devenu professeur d'abord à l'école normale, puis au Collège de France, puis membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur de la section historique des archives. Tout ça faisait de lui un notable. Et c'est au cours de la monarchie de Juillet qu'il y a eu une sorte de retour à la conscience de son appartenance au peuple. Il a renoué volontairement, en quelque sorte, avec cette identité populaire qui était son origine.
C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie de bourgeois sans être éthiquement bourgeois, en restant peuple, ou du moins en tenant les deux côtés, sur une ligne de crête.
Oui, il dans Le Peuple, qui est un ouvrage qui précède de peu l'histoire de la Révolution française et qui en est d'une certaine manière le creuset.
1846.
Michelet justement fait une magnifique lettre préface adressée à Edgar Quinet, dans laquelle il revendique pour la première fois ouvertement ses racines populaires. Ce qui est déjà une transgression par rapport à une forme de respectabilité sociale. Et dans cette préface, il incite effectivement à prendre ses distances par rapport à un embourgeoisement qui serait un reniement de l'appartenance au peuple.
Alors, je ne sais pas s'il y a une méthode Michelet, il y a une parole et une poésie Michelet. On va essayer de les suivre en prenant quelques étapes. Dans l'introduction à la Révolution française, là où on attendrait seulement des développements sur les causes qui ont des conséquences ou qui auraient mécaniquement des conséquences, voilà que se loge une histoire qui vous était d'ailleurs racontée hier dans Autant on emporte l'histoire sur France Inter, l'histoire d'un certain Latude, qui est un aventurier, mythomane, condamné sous Louis XV pour avoir dénoncé un faux complot contre la Pompadour, emprisonné, on connaît le système des lettres de cachet qui est encore en usage à l'époque, et comme il est un roi de l'évasion, il s'affronte assez vite avec le gouverneur de la Bastille, chez qui il devient locataire.
Ainsi, monsieur d'Henri...
Ah non, pardon. Henri Mazère de Latude. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur.
De Latude.
Bâtard, mais bâtard du marquis de. C'est un détail que j'ai déjà signalé et auquel j'attache quelques prix. Mazère de Latude.
Alors, monsieur d'Henri, on s'évade de Vincennes et on écrit à sa majesté et on se retrouve en Bastille, d'où l'on ne s'évade jamais.
En Bastille, mais non embastillé, monsieur le gouverneur. Nous ne sommes ici que le temps d'une explication entre gens de bonne foi.
Alors, monsieur d'Henri, je vous écoute. Détail complice.
À l'extrait d'une émission, Les Évadés de l'Histoire, on dirait aujourd'hui une émission consacrée à la petite histoire. Pourquoi raconte-t-il sur tant de pages cette affaire de Latude secondaire ?
C'est une particularité troublante de cette grande introduction qui commence par dire que la Révolution, contrairement à ce que d'autres historiens contemporains ont pu dire en la présentant comme le résultat d'une lente évolution commencée au Moyen-Âge, d'émancipation de la classe bourgeoise qui culminerait en 89, Michelet, lui, dit que en 88, enfin dans les années qui précèdent la Révolution, la monarchie absolue a fait une sorte de table rase de la France. La monarchie a complètement épuisé la France et que la Révolution est fille de ses propres œuvres, qu'elle sort quasiment du néant, de cette table rase, ce qui fait d'elle une véritable création. Et avant de conclure et de passer au texte, enfin au récit lui des événements eux-mêmes, Michelet va amplifier cette histoire de Madame Le Gros et de la Tude.
Alors attendez, on a parlé de la Tude, mais on n'a pas parlé de Madame
Le Gros. On n'a pas encore parlé de Madame Le Gros.
Il faut toujours parler des femmes quand il s'agit de Michelet. Oui, la Tude va être sauvée des cabanons de Bicêtre, où il a fini son temps de captivité, grâce aux efforts d'une femme mercière à Paris qui s'appelait Madame Le Gros. Mm-hmm. Et qui était enceinte d'ailleurs en 1784, quand elle a vu la récompense venir de la part de la grâce du marquis de Breteuil.
C'est Madame Le Gros, la véritable héroïne de Michelet, ce n'est pas la Tude. C'est l'héroïsme de cette mercière qui, donc contrairement justement à tout ce que sa classe peut-être l'aurait déterminée à être, c'est-à-dire indifférente au sort d'un prisonnier d'État dans la Bastille, va prendre fait et cause pour la Tude et parvenir, en multipliant les démarches, à le faire libérer. Et à l'oreille d'écrivains, ou à l'imagination d'écrivains qui est celle de Michelet, je pense qu'en effet, le fait qu'elle soit enceinte, qu'elle s'appelle Madame Le Gros, attire l'attention du lecteur sur le sens symbolique de cet épisode.
C'est-à-dire que pour des historiens classiques, je sais pas, Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, quelques années plus tard, il y a des mécanismes de causalité, tandis que chez Michelet, c'est une affaire de fécondité.
Exactement. Madame Le Gros a accouché de la Révolution, d'une certaine manière. Et Michelet dit que la Bastille était prise une fois qu'elle en avait fait sortir la Tude. C'est cette idée, vous parliez du pic tout à l'heure, le naturalisme de Michelet se sent ici aussi. C'est-à-dire que les événements arrivent plutôt effectivement comme des accouchements, des avènements, que comme une conséquence logique d'un enchaînement de causes.
On illustrera assez souvent cette réflexion sur la nouvelle édition de l'histoire de la Révolution française par quelques extraits du film « Un peuple et son roi » de Pierre Scheller. Alors on a moqué la manière dont il racontait comment la lumière pénétrait dans le quartier de la Bastille, aussitôt la forteresse démontée, mais c'était comme un éclair d'éternité. Et puis on a trouvé aussi un peu lourd et emphatique l'épisode de l'accouchement.
Allez, crie ma fille, libère-toi, lâche. Allez, crie.
Allez.
Libère-toi.
Ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Nos ennemis confiants restent là, et nous allons chanter Alléluia. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, quand Brelo jadis du clergé parla, comme un prophète, il prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal le clic au diable s'envolera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'histoire de la Révolution française, nouvelle édition critique dans la Pléiade avec une équipe dirigée par Paul Petitier. Ce qu'on entendait là, c'était Le ça ira du lendemain de la fête de la Fédération qui peu à peu virait à la violence. Mais retenons le premier instant seulement de l'Évangile. La maxime s'accomplira, du législateur d'ailleurs, tout s'accomplira. Parce que je vous propose, Paul Petitier, vous qui êtes responsable de cette édition, de prendre les étés les uns après les autres. Et d'abord l'été justement de la fête de la Fédération. En 1790, qui fait l'objet de pages magnifiques de Michelet.
C'est le point culminant, sans aucun doute, de la révolution unanime pour, aux yeux de Michelet. Il y a un crescendo qui va de la prise de la Bastille aux journées d'octobre 1789, et puis le troisième acte de ces retrouvailles de la France avec elle-même, c'est la fête de la Fédération de 90.
Voyez-vous toutes ces routes noires d'hommes, parce qu'on vient à pied pour rejoindre Paris, de voyageurs en marche qui, des extrémités, se dirigent vers le centre. Mmh.
Ce qui a fasciné Michelet, c'est ce mouvement spontané, dit-il, de, d'abord de fêtes locales, de réunions, de gens qui, sous l'effet de la peur, pendant la grande peur ou après, se prêtent serment d'entraide et sont animés par, par le sentiment de l'appartenance commune à la patrie. Et ce mouvement venu de toutes parts qui va converger vers Paris, la fête officielle étant certes une apothéose, mais contenant déjà des signes de mauvaise augure.
Oui, parce qu'il y a des traites, c'est comme dans la scène, je reprends la comparaison avec les évangiles, c'est une nouvelle scène avec le partage de la nourriture entre les affamés et les repus.
Oui, c'est une nouvelle scène à laquelle assistent des personnages douteux comme Talleyrand, l'évêque boiteux, et puis le roi qui va prêter serment, mais dont Michelet surprend à travers des remarques de témoins. Je crois qu'il convoque Madame de Staël, je ne suis pas absolument sûre, mais en tout cas des regards des spectateurs qui mettent en doute la bonne foi du roi lors de cette fête.
Oui, parce que sur l'hôtel, autour de l'hôtel de la Patrie, il y a de très nombreux prêtres, autour de l'évêque d'Autun, Talleyrand. Le prêtre veille, et le prêtre d'ores et déjà, il le voit comme celui qui veut retarder le dépassement du christianisme que permettrait la Révolution si le prêtre n'était là.
Le prêtre apparaît à Michelet comme vraiment le noyau même de la pensée contre-révolutionnaire et j'ai envie de dire des manigances contre-révolutionnaires. Et en effet, parce qu'il représente un système ancien, un système que la Révolution est destinée, selon Michelet, à effacer, et que, bah, comme tout élément du passé, il ne souhaite pas qui perdure, il ne souhaite pas disparaître,
il ne souhaite pas se transformer. Il n'aurait même pas fallu à l'entendre qu'il y ait une constitution civile du clergé, c'est-à-dire une réorganisation de l'Église selon des principes que ceux qui l'ont promu, cette constitution, imaginaient compatible avec la révolution.
Oui, effectivement, tout commence à la fois avec l'appropriation des biens du clergé par la nation.
Ça, c'est bien, pour Michelet.
C'est extrêmement bien, puisqu'il ne cesse de dire que, justement, cette fortune de l'Église, elle est destinée non pas à être confisquée par l'Église, mais à être redistribuée au peuple, et que le rôle original de l'Église est celui, à la fois, d'éduquer le peuple et d'être solidaire avec le peuple et de l'aider matériellement par ses biens qui lui ont été légués. Et donc, sa thèse est que cette Église a failli à ce double rôle d'éducatrice et de protectrice.
Alors, le roi n'est même pas partisan de la constitution civile du clergé, mais va tenter de faire ses Pâques chez les réfractaires. Et puis, c'est au nom de cette constitution civile du clergé, le prêtre veillant toujours, qu'il part vers l'Est. La fuite de Varennes, formidablement décrite, parce qu'il y a le rythme de la berline, et puis il y a le rythme des foules populaires qui se dirigent,
ça,
une fois
retour,
la berline arrêtée, vers le convoi funèbre de la monarchie.
Le retour de Varennes est un des passages vraiment magnifiques et marquants de cette histoire de la Révolution, avec, oui, ce mouvement de houle des populations qui convergent vers la berline du roi, chargée elle-même des représentants du peuple qui sont venus reconduire le roi, et est, on est à la fois dans le romanesque, entre les tentatives de séduction de Marie-Antoinette sur ses représentants du peuple, et dans l'épique avec l'océan de peuple qui entoure la voiture et l'entrée terrible et formidable dans un Paris silencieux, puisque on avait demandé au peuple de ne pas... Enfin, d'être témoin de cette arrivée du roi sans rien manifester.
Les représentants ont, toujours selon le point de vue de Michelet, eu tort de se laisser circonvenir et, une fois la suspension du roi décrétée, de ne pas l'avoir prolongée, de l'avoir rétablie dans ses fonctions, ce qui fait que, ici et là, par exemple dans le club des Cordeliers, des mouvements en faveur de la République se dessine. C'est intéressant ce qu'il dit des clubs, parce que le peuple, le 14 juillet 90, comme le 14 juillet 89, est uni, mais il y a peu à peu des gens qui se spécialisent dans
la politique. C'est tout le drame de la Révolution, selon Michelet, c'est que tant que l'action reste unanime, elle reste, tant que le peuple s'approprie l'action, on peut penser qu'il y a une démocratie effective. Mais dès que la politique se spécialise, et il analyse, il est un des premiers d'ailleurs à le faire, de manière très détaillée dans le deuxième tome de 1847, la constitution de ces clubs après l'été 90, justement, le renforcement du club des Jacobins et du club des Cordeliers notamment, et cette professionnalisation de la politique qui va donner une forme d'efficacité à l'action révolutionnaire, mais en même temps commencer cette fracture avec la masse à laquelle appartenait auparavant l'initiative politique.
Exemple de division fatale, après donc le rétablissement des prérogatives royales, juillet 91, tragique anniversaire à peu de jours de distance de la fête de la Fédération que vous avez décrite, sur le Champ de Mars, nous sommes toujours dans le film de Pierre Scholler, les amis des Cordeliers, partisans de la République, se regroupent au pied de l'hôtel de la Patrie, où avait eu lieu la messe de la fête de la Fédération, et la garde nationale, une autre partie du peuple, va tirer sur eux.
Déclarons sur le champ que la France n'est plus une monarchie.
Pour devenir quoi alors?
Une république, comme à Rome.
Ah, c'est allé vite en besogne.
C'est ce que les Cordeliers répandent dans tout Paris.
On a déposé 17 pétitions depuis juin, signées par 30 000 citoyens et citoyennes.
République est un mot abstrait pour le peuple.
Dimanche, nous appelons toutes les sections de Paris à pétitionner. Au Champ de Mars. Venez, venez sans armes, en famille. Ce sera un beau jour pour la liberté.
Au Champ de Mars.
Si c'est pour la liberté, tu n'y verras. L'oncle.
Antoine-François Momoreau, imprimeur, graveur, libraire.
Varlet, Jean-François.
Candolle, Françoise. Nous aussi, tu nous y verras.
Allez, dispersez-vous, loi martiale! Dispersez-vous!
Signalons au passage que le film de Pierre Scholler, qui n'a pas toujours trouvé son public au moment de sa sortie, est maintenant disponible en DVD. C'est un film michelétien à certains égards.
Oui, large. C'est frappant dans son projet de redonner justement au peuple la position d'acteur.
Et notamment le 10 août, alors dernier été, l'été 92, dernier été pour nous, premier volume de la Pléiade, notamment le 10 août 92. Un événement est révolutionnaire, dites-vous, Paul Petitier, à la suite de Michelet, dès lors qu'on sait qu'il n'a pas d'autre héros que le peuple. Mmh. Et qu'on ne peut pas vraiment en identifier les leaders.
Ah oui, ça c'est une idée, à laquelle Michelet n'a jamais renié. Il commence en disant que 1830 est une révolution formidable parce qu'il n'y a pas eu de leader ou de héros. Et pour la Révolution française, les journées révolutionnaires sont d'autant plus porteuses de revendications, universelles, qu'on n'y trouve pas de meneurs. Donc à propos du 10 août, par exemple, il va s'efforcer de récuser l'idée que Danton serait le héros du 10 août.
Parce que les vedettes de la Révolution française, et Robespierre aussi, se tiennent un peu en retrait finalement, le 10 août 1792. Vous avez dit formidable, ça veut dire qu'il fait peur.
Oui.
Parce que juste après le mois d'août 1792, une fois qu'il a décrit l'enterrement Formidable passage aussi. Des victimes du 10 août, voilà que se répandent les tueurs dans les prisons de Paris, au Carme et ailleurs. Et une femme, encore une femme après Madame Legros, une fille de Mercière d'ailleurs, qui s'appelle Madame Roland, qui est la femme du ministre de l'Intérieur et qui joue un rôle important à l'époque. Elle s'oppose à ceux qui massacrent ou à ceux qui, comme Danton, garde des Sceaux, laissent faire, peut-être, les massacres.
Parle-t-on chiffon dans le salon du garde des Sceaux ?
Non. Nous parlions des massacres qui ensanglantent les rues de Paris depuis une semaine. Vous ne faites rien pour les arrêter.
Tout beau, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est votre mari, ma chère.
Vous savez mieux que moi qu'il n'y peut rien, si vous ne donnez des ordres.
Manon Roland et moi constatons que le carnage dure depuis 5 jours, que 3000 prisonniers ont été massacrés.
Allons, allons, citoyenne, vous savez bien que si nous avions pu empêcher les massacres, nous l'aurions fait. N'imitez pas les imbéciles qui me reprochent cette boucherie. Est-ce que cela me ressemble ?
Et puis il y en aura, avec lequel il faut compter, n'est-ce pas ?
Oh, ma belle Manon, vos yeux bleus, votre regard qui passe de l'énergie à la tendresse, votre bouche ouverte au sourire comme à la parole, votre grâce voluptueuse.
Laissez donc.
Roland est un gros malin, il sait bien que je cède sur tout ce qu'il vous envoie me demander.
À bientôt, citoyen garde des Sceaux.
Le diable emporte les femmes qui se mêlent de politique.
Bon, on n'est plus dans le film de Scheller, hein, mais dans un bon vieux feuilleton, Les Amours sous la Révolution. 5 chapitres sur les massacres de septembre, la présence de Madame Roland dans ces chapitres et la présence de Madame Roland partout où c'est possible.
Oui, Madame Roland est une des héroïnes qu'il met en lumière. Pour les massacres de septembre, je ne pense pas qu'elle, que
qu'elle
ça m'intéresse particulièrement.
Qu'elle joue un rôle autant que dans Les Amours,
oui, voilà,
sous la Révolution,
voilà,
c'est
exactement.
Vrai. Mais alors, vous nous permettrez de faire des pas de côté. Michelet n'est pas la rigueur même.
Bon, en tout cas, ce qui est frappant, c'est la place donnée au massacre de septembre, à leur récit qu'on dirait sorti d'une histoire gothique, mais même encore, je dirais, allant au-delà de l'horreur du roman gothique. Et puis évidemment, ça reste une énigme devant laquelle Michelet ne recule pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus croire que son apologie du peuple soit sans conscience d'un revers.
Ben, si on n'est pas épuisé dans Le peuple et son roi, le film de Scheller, à ce sujet, c'est qu'il n'y avait rien dans le film. Mais il y a quand même beaucoup de femmes dans ces massacres de septembre. Les femmes dont les têtes sont promenées en haut des pics. Les femmes dans la Révolution française, selon Michelet.
Les femmes sont, bah, comme je le disais à propos de Madame Roland, des héroïnes, au sens où elles ont le courage, elles ont la détermination. Ce sont des femmes qui s'engagent politiquement et qui n'aiment pas la révolution par un amour, passionné ou déterminé par des hommes qu'elles aimeraient et dont elles suivraient les opinions. Ils les montrent comme des sujets politiques à part entière. Et Madame Roland est une forme d'allégorie de la République chez Michelet. Elle apparaît au moment où les idées républicaines se développent et Michelet consacre tout un chapitre à insister sur la part et le poids qu'ont eu les femmes en 91 dans la maturation de l'opinion républicaine sous la Révolution française.
Je disais que le film de Scheller n'avait pas trouvé son public. Est-ce que la Révolution française de Michelet, dès le milieu du 19e, a trouvé son public ?
Non, elle n'a pas trouvé son public au moment où elle a été écrite. Alors, les premiers tomes sont sortis en 1847, en même temps que 4 autres historiens ou auteurs publiaient des histoires de la Révolution.
Dont Lamartine
qui a écrasé de son prestige les premiers tomes de l'histoire de la Révolution de Michelet. Puis, la Révolution de 48 a éclaté et chacun sait qu'en temps de Révolution, l'édition ne se porte pas très bien. Si vous ajoutez à cela le tournant conservateur de la Seconde République, puis le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, les derniers tomes de l'histoire de la Révolution française, qui sont parus en 49, 50, enfin jusqu'en 53, ont connu effectivement des chiffres de tirage.
Oui, mais il faut le dire, hein, 1429 exemplaires vendus et 1186 exemplaires vendus, records qui seront pulvérisés par votre édition de la Pléiade. Merci à vous Paul Petitier. L'émission était préparée par Frédéric Martin. Sonia Leglen à la réalisation. Loïc Frapsos à la technique. Et vous allez saluer votre invité de notre part, cher Mathieu Vidard.
Il vous entend, Éric Baratet, Jean, dans un instant, notre invité, professeur d'histoire contemporaine, pour parler de la question animale.
Merci à vous.